Aujourd'hui, le pétrole ne vaut plus que des clopinettes, trois fois moins qu'il y a deux ans.
Il suffit de survoler certaines régions de Bosnie pour voir que la guerre civile est devenue une réalité.
Rupture. L'émission qui décrypte les images d'archives de la RTBF en partenariat avec la Sonuma. Avec Ulrich Helgeveld et Thomas Cox.
Bonjour Eric, bienvenue dans un nouvel épisode de Rupture.
Bonjour Thomas.
Alors aujourd'hui, on va retracer l'histoire récente de l'Ukraine à travers des images d'archives de la Sonuma. Pour commencer, on va débuter ce décryptage avec des images de Tchernobyl, des images qui ont été tournées en avril 1991, 5 ans après la tragédie que connut le pays.
5 ans après l'accident, les autorités soviétiques essayent vainement d'arrêter le déferlement d'une vague écologique qui a déjà amené plusieurs républiques à prendre des mesures pour limiter la fabrication d'électricité nucléaire en Union soviétique. Il faut dire qu'il y a de quoi. Les chiffres officiels des victimes sont toujours ridiculement faibles. 31 morts, 145 personnes malades, mais plus personne n'y croit. Ce serait en effet 8 à 10 000 personnes qui auraient été victimes de la plus grande catastrophe du nucléaire civil dans l'histoire.
Alors oui, qu'on vient de voir, on entend beaucoup de chiffres dans ces extraits. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un bilan définitif établi pour les conséquences de cette catastrophe?
Ben non, alors justement, j'ai regardé un petit peu en préparant l'émission où s'en étaient les derniers bilans qui ont été réalisés. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'organisations internationales qui se sont penchées sur le sujet. Et en fait, les estimations, les fourchettes, c'est même plus des fourchettes à ce niveau-là, elles oscillent entre 5 000 personnes dans l'hypothèse la moins pire, et puis jusqu'à 100 000 victimes de cette catastrophe. Alors évidemment, il y a les victimes directes, hein, les liquidateurs hein, qu'on a pu revoir notamment dans la série Tchernobyl. Et puis, il y a évidemment toutes ces victimes indirectes, les cancers, les maladies qui se sont développées, notamment dans cette zone autour de Tchernobyl, parce que le nuage radioactif, en tout cas, il s'est concentré sur le nord, le vent soufflait vers le nord à l'époque au Bélarus. Il y a toute une zone impropre à la vie, en fait, et où les maladies sont énormément développées.
Parce que la catastrophe, elle n'a pas juste touché l'Ukraine, la Biélorussie, comme tu dis, et aussi une partie de la Russie. Alors, on entend aussi beaucoup dire que cette catastrophe a un peu précipité hein, la chute de l'URSS. Est-ce que tu partages cette vision?
Oui, je pense que c'est pas tout à fait faux. Effectivement, il y avait déjà à l'époque, en 86, il y avait cette triste guerre, cette tragique guerre en Afghanistan qui a énormément coûté à l'URSS. Alors, coûté financièrement et puis coûté aussi des vies humaines, coûté en crédit diplomatique. Et puis, Tchernobyl, ça a été un peu la même chose. Il faut imaginer, on parle de 600 000 liquidateurs qui ont défilé autour de Tchernobyl pour construire très rapidement le sarcophage hein, qui a permis de contenir cette catastrophe. Et puis ça a coûté aussi pour le crédit international de l'URSS, parce que évidemment l'URSS a été mis face à ces contradictions. À l'époque, il y avait Gorbatchev qui venait d'arriver avec ses idées de glasnost, de perestroïka, de libéralisation du système. Mais l'URSS a quand même eu du mal à reconnaître l'ampleur de la catastrophe qui s'était produite à Tchernobyl. Alors ils ont dû le faire parce qu'évidemment la radioactivité elle passe les frontières. Et en Suède, il y a une centrale nucléaire où on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Donc les Soviétiques ont été contraints de reconnaître la catastrophe. Mais voilà, ça a été un processus compliqué et qui a mis du coup l'URSS en grande difficulté.
Alors avec les images suivantes, on va arriver au tournant des années 90-90 hein, qui dessine l'indépendance de l'Ukraine. On va aborder cet épisode historique à travers différents extraits issus d'un documentaire qui a été tourné par la RTBF en décembre 91-91.
L'hymne soviétique, on ne l'entendra plus. La perestroïka est venue d'en haut, le nationalisme s'est réveillé à la base. Le 17 mars 1991, 70% des Ukrainiens approuvaient le projet Gorbatchev d'union des États souverains. La tête du grand Lénine de granit est tombée le 11 octobre vers midi. L'idole aura été bâtie et détruite par les mêmes, qui ont quitté le parti, pas le pouvoir. Place de la Révolution d'octobre, rebaptisée Place de l'Indépendance, c'est le temps des têtes déboussolées.
Je vis dans le pays de l'idiotisme développé. Oui.
Mais quel est son nom?
Son nom? Comment vous dire? L'URSS?
Nous sommes une nation européenne et nous sommes de fait le centre géographique de l'Europe.
L'Union soviétique et 3 siècles d'alliance russo-ukrainienne finissent avec la défection de l'Ukraine. Le nouveau pouvoir russe à Moscou s'est emparé de l'héritage de l'URSS. Une nouvelle union a-t-elle dès lors des chances de s'établir ? Ce serait en tout cas pour l'Ukraine, dans l'indépendance, plébiscité à 90% le 1er décembre, et pour le moment, avec le président Kravchuk, élu à 60%. Ainsi s'est achevé, cet automne, très paisiblement, l'ère ouverte par la révolution de 1917 et d'une certaine façon, la Première Guerre mondiale. Les peuples d'Ukraine n'ont pas été consultés sur l'Union, ni sur l'autonomie des régions, encore moins sur les grands bouleversements qui les attendent. Ils savent à peu près ce qui finit, ils ignorent ce qui vient de commencer.
Alors Ulrich, une des personnes interrogées, fait référence à une nécessaire fuite de cette union. Comment est-ce que ce processus d'indépendance s'est déroulé ?
Alors en fait, il s'est déroulé un peu symétriquement à ce qui s'était passé dans une grande partie des républiques de l'URSS. À l'époque, à la fin des années 80, en fait, il y a eu la perestroïka, la glasnost, et puis tout ce couvercle qui s'est desserré sur cette dictature soviétique, il a réveillé les nationalismes, alors pas partout, mais notamment en Ukraine, en Géorgie, en Arménie, dans les pays baltes, et donc ce processus s'est mis en place et il s'est accéléré à la faveur d'un événement qui est arrivé en août 91-91. C'était évidemment ce coup d'État qu'a déposé Mikhail Gorbatchev. Alors il n'a pas duré longtemps ce coup d'État, il a duré juste 3 jours, mais il a résonné comme un coup de semonce en URSS, et c'est à cette occasion que l'Ukraine, notamment quelques jours plus tard, a décidé de déclarer sa souveraineté, et sa souveraineté, elle a été son indépendance, elle a été validée par un référendum en décembre 91 et c'est un référendum. Alors ça, c'est intéressant d'en parler parce qu'on a les chiffres, hein. C'est un référendum qui s'était passé dans des conditions tout à fait honnêtes et transparentes, et c'est un référendum auquel 75% de la population ukrainienne avait participé, et évidemment à l'ouest, qu'on considère être les bastions de l'indépendance ukrainienne, il y a eu des scores soviétiques presque pour le coup, avec des scores 99% de oui à l'indépendance, mais aussi dans l'est. Et ça, c'est important de le souligner, parce qu'on dit toujours les régions, notamment Donetsk, Lugansk, n'étaient pas du tout envie de s'engager dans cette voie de l'indépendance. Mais en fait, quand on voit les chiffres de ce référendum, on voit que dans ces régions-là aussi, à Donetsk, à Lugansk, on est à plus de 80% de oui pour l'indépendance. Il y a juste une des régions où c'est un peu plus mesuré, c'est la Crimée. Là, on est à 55% de oui pour l'indépendance. Et effectivement, ce référendum du 1er décembre 1991, il va être suivi d'une réunion qui va donc réunir les présidents biélorusses, russes et ukrainiens, Kravchuk, Yeltsin et Shushkevich, et eux, du fait de cette nouvelle réalité, du fait du départ inéluctable de l'Ukraine de l'URSS, ils vont signer l'acte définitif de décès de l'URSS. Ça se passe le 8 décembre dans la forêt, quelque part au Bélarus, et c'est vraiment ce qui préfigure l'abaissement du drapeau soviétique en haut du Kremlin. C'est ça qui va avoir lieu le 25 décembre 91.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que tu me parlais aussi d'un référendum qui avait été tenu quelques mois plus tôt, en mars, et qui dessinait autre chose. Hein.
Bah oui, c'est ça, il faut quand même le souligner, parce que, mais bon, les gens peuvent changer d'avis, et puis effectivement, il y avait eu ce coup d'État entre les deux événements, mais en mars 1991, il y avait effectivement eu un référendum, qui avait été initié par Gorbatchev. Alors, on demandait aux soviétiques, ça n'a pas été organisé dans toutes les républiques, mais notamment en Ukraine, s'ils voulaient maintenir l'Union. Et en fait, c'est étonnant, les Ukrainiens qui vont voter donc massivement pour l'indépendance le 1er décembre 1991, ils avaient voté en mars pour rester dans l'Union à près de 75%, 75% de la population. Donc oui, effectivement, c'est important de le noter, et c'est vrai que ça a changé.
Alors on l'a vu dans l'extrait qu'on vient de visionner, il y a cette indépendance est aussi synonyme un peu de flou quant à l'avenir du pays. Cependant, est-ce que c'est aussi une claire scission qui va s'opérer entre l'Ukraine et la Russie à ce moment-là ?
Alors non, il n'y a pas début, hein, les liens sont énormes en fait entre toutes les républiques, les ex-républiques soviétiques. Évidemment, quel Ukrainien n'a pas un oncle, une tante, un cousin en Russie ? Et puis il y a des liens économiques aussi. Les entreprises soviétiques étaient ainsi faites que généralement, on prenait toujours cet exemple du vélo par exemple, où il y avait une roue qui était fabriquée dans une république, le guidon dans un autre, etc. Et tout était très très imbriqué. Et puis les relations ont été compliquées avec la Russie, même dans les années 90, dans les années 90. Mais voilà, c'est ça, c'est toujours resté assez mesuré. Il y a quand même un traité d'amitié qui a été signé entre les deux pays. Il y a aussi ce mémorandum hein, de Budapest. Il faut quand même en parler, qui a été signé en 1994. Ça, c'est parce qu'en fait, là, c'est quand même un élément important. C'est que l'URSS, quand elle s'est effondrée, il y avait des armes nucléaires dans 4 pays de l'ex-Union. Bélarus, Russie, Ukraine, Kazakhstan. Et en fait, les Occidentaux, notamment, ont demandé que toutes ces armes elles soient rapatriées en Russie pour qu'il n'y ait pas 4 boutons. Ils préféraient qu'il n'y en ait plus qu'un et éviter de la prolifération nucléaire. Et les Ukrainiens n'étaient pas très chauds, évidemment, à se débarrasser des armes nucléaires qui sont quand même une garantie de sécurité. Et en contrepartie de ça, ils ont fini par l'accepter, mais ils ont demandé à ce qu'on leur garantisse leur sécurité. Et la Russie a notamment signé le mémorandum de Budapest dans lequel elle s'engage à garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On a vu ce qu'il en a été. Mais à l'époque, la relation était parfois complexe. Il y avait des sujets de contentieux. On parlait déjà de la Crimée en Russie, mais ça restait très, 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 très mesuré. Puis en fait, les deux pays avaient tellement d'autres choses à faire. La situation économique était quand même assez désastreuse, que ça soit en Russie et en Ukraine dans les années 90.
Alors avec les images suivantes, on va faire un grand bond dans le temps. On va arriver en 2004. Alors c'est un autre épisode important de l'histoire récente de l'Ukraine. C'est la révolution orange. On va regarder tout de suite les images.
La révolution ukrainienne, ce sont ces images de manifestants occupant dans le froid le centre de Kiev.
Il fait moins 10 degrés la nuit et tout le monde ne peut pas supporter cela. Mais nous resterons un mois ou deux s'il le faut et nous allons gagner.
On en a marre du pouvoir des bandits dans ce pays. Nous voulons des normes démocratiques comme dans toute l'Europe.
Ulrich, on vient de voir des images de la Révolution orange. Peut-être comment expliquer ce déclenchement-là si soudain, à ce moment-là ?
Eh ben en fait, c'est assez simple. Hein. Faut juste se remettre dans le contexte. Il y a une élection qui est en train de se dessiner. On est à l'automne 2004. Le président Kouchma, qui est à la fin de son deuxième mandat. On ne peut pas se représenter plus de deux mandats en Ukraine. Et il y a deux candidats. Alors, il y a le poulain, le dauphin de Léonid Kouchma. Il s'appelle Viktor Yanukovych. Alors, lui, c'est un peu... Il vise à continuer la politique qui a été menée par Kouchma. C'est pas tout à fait... C'est un peu réducteur de dire pro-russe, mais grosso modo, c'est ça, pour continuer le business as usual. Et puis, il y a un autre candidat. Alors lui, c'est un ancien Premier ministre. Il s'appelle Viktor Yushchenko. Et alors lui, il est plus pour un rapprochement avec l'Europe. Il a un discours résolument anticorruption aussi, parce que la corruption, c'est quand même un des mots principaux de l'Ukraine. Là aussi, c'est pas que l'Ukraine, mais voilà, c'est quand même assez développé. Et donc, dans les sondages, Viktor Yushchenko, il est annoncé comme le potentiel gagnant. Il n'y a pas photo. Et alors ça commence à inquiéter, notamment en Russie, où le président, depuis 3 ans, s'appelle Vladimir Poutine. Il a des discours, hein, déjà, où on commence à sentir que l'Ukraine, qu'elle prenne un peu trop d'indépendance, c'est pas forcément sa tasse de thé. Et effectivement, pendant un jour de la campagne, Viktor Yushchenko, on va s'apercevoir qu'il a été empoisonné, il a le visage totalement ravagé. Donc évidemment, ça va créer une onde de choc en Ukraine énorme, et aussi dans la communauté internationale, parce que ça met quand même la lumière sur des pratiques un petit peu particulières, et il y a évidemment de très graves soupçons qui pèsent sur la Russie, surtout que cet empoisonnement, il intervient après un repas entre Yushchenko et puis des personnalités des services secrets russes. Mais qu'à cela ne tienne, la campagne va continuer malgré tout. Yushchenko va être soigné, mais il est toujours en tête des sondages, et là on va, avec l'aide des Russes, l'Ukraine va truquer le scrutin. Viktor Yanukovych est, à l'issue du deuxième tour, déclaré vainqueur. Et alors ça, c'est... beaucoup d'Ukrainiens savent, comprennent qu'on les a floués. Et commence à descendre dans les rues. Alors c'est à Kiev, c'est aussi dans les villes de l'Ouest, et puis un petit peu aussi quand même dans les villes de l'Est. Alors c'est une mobilisation qui prend une ampleur énorme. On se rappelle, hein, qui a aussi un symbole, c'est la couleur orange. C'est pour ça qu'on l'appelle la, la révolution orange, et elle va mobiliser les foules pendant qui vont stationner sur les places pendant des semaines, voire des mois, et elles vont contraindre le président ukrainien Kouchma à organiser un troisième tour du scrutin, et là qui va se faire sous le contrôle des occidentaux, notamment des observateurs, et elle va se finir par le triomphe de Viktor Yushchenko qui va finir par être investi. Et juste un petit mot, cette révolution orange, elle s'inscrit aussi dans un contexte qui est celui des révolutions de couleur. Il y avait une précédente révolution qui avait eu lieu un an avant en Géorgie et qui balayait un petit peu les anciennes élites post-soviétiques.
Alors Eric, tu mentionnais la mobilisation à Kiev et dans d'autres parties du pays, notamment à l'Est. Alors on a beaucoup entendu parler à cette époque de cette division linguistique du pays. Est-ce que c'est quelque chose qui est avéré ? Dans quelle mesure est-ce qu'il faut nuancer cette division et ce rapport par rapport à l'Union européenne et la Russie ?
Alors c'est une question très importante, hein, effectivement. Alors ça a beaucoup évolué, cette question, quand même, au fil du temps. La situation aujourd'hui n'est plus du tout la même qu'à l'époque. Mais effectivement, en Ukraine, il y a deux langues. Hein. On passe souvent du russe à l'ukrainien. C'est pas parce qu'on est russophone qu'on est forcément russophile et qu'on est ukrainophone et qu'on est forcément tourné vers l'Europe, même si effectivement il y a quand même des tendances. Et effectivement, pendant la Révolution orange, moi j'avais eu la chance de faire un reportage dans le pays. On avait voyagé de l'est à l'ouest et effectivement il y avait quand même une très forte fracture. Hein. On posait les mêmes questions à l'ouest et à l'est, on n'avait pas du tout les mêmes réponses. Et ça, par contre, mais on en reparlera, ça a beaucoup évolué. Hein. Là, on a refait un reportage très récemment. Juste avant la guerre en Ukraine, et maintenant la situation est complètement évoluée.
Et qu'est-ce qu'elle va donner au final de cette révolution orange ?
Alors cette révolution orange, elle avait suscité énormément d'espoir. Il y avait beaucoup de promesses. Alors ça va se terminer en grande partie par quand même une énorme déception, notamment pour plusieurs raisons. Alors il y a eu cet empoisonnement de Yushchenko, on l'a un peu oublié, mais ça l'a énormément affaibli. Et donc je me rappelle d'une interview où il expliquait en fait qu'il se levait le matin, il était complètement incapable de travailler autant que la charge l'impose. Et comme la nature a horreur du vide, dans le cadre de cet affaiblissement du président, c'est d'autres personnes qui ont essayé d'occuper le terrain. Et puis, il y a eu des énormes bisbilles très vite entre les figures de la Révolution orange, notamment entre Yushchenko et sa première ministre, et qui s'appelait Yulia Tymoshenko, qui était une égérie de la Révolution orange, personnalité très connue hein, de l'Ukraine. Et ils sont rapidement fait la guerre. Et donc, évidemment, ça a freiné cette Révolution orange très rapidement. À partir de 2006, Yushchenko a été obligé de rappeler en tant que Premier ministre son adversaire d'hier, Viktor Yanukovych. Donc non, ça c'est loin d'avoir répondu à toutes ces promesses, cette révolution orange. Et puis il y avait aussi la volonté de se rapprocher avec l'Europe. Alors ça n'a pas trop avancé non plus. Et puis ni avec l'OTAN en 2008, date importante, il y a une réunion à Bucarest. L'OTAN dit ne répond pas à la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'organisation. C'est repoussé sine die.
Merci beaucoup Ulrich pour ce nouvel épisode de Rupture.
Merci Thomas.
C'était la première partie de l'émission Rupture en partenariat avec la Sonuma RTBF, une émission à retrouver en intégralité sur les sites de radio.fr et eradio.be.